Salut et bienvenue dans L'Aventure, une rencontre avec des femmes et des hommes qui se dépassent au quotidien et qui nous emmènent dans leur univers l'espace d'un instant. Sixième épisode de cette deuxième saison. J'ai rencontré Lydie et Claude. Ils ont fondé l'école de parachutisme de B, qu'on connaît sous le nom de Flying Devil. On parle donc chute libre aujourd'hui. On a abordé plein de notions différentes. Il y avait la sécurité, un peu, le plaisir, beaucoup, le partage énormément. Parce que si on peut imaginer que cette activité est solitaire, Lydie et Claude disent à mon micro que le partage est au cœur de leur projet. Saison 2, épisode 6, voici l'aventure, bienvenue.
LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume Jetta.
Lydie Rabaza, je suis chef d'école pour l'école de parachutisme Flying Devil, 4000 sauts plus. Et puis sinon, je m'amuse aussi parfois en soufflerie pour des championnats. Hein.
4000 sauts plus, donc ça veut dire que chaque saut que tu fais, tu en gardes une trace ou alors c'est plus ou moins une moyenne?
Non, on est supposé absolument garder une trace, c'est un peu comme des pilotes, ils marquent tout leur vol, nous on marque tous nos sauts.
Le premier saut à quel âge?
Ça a été tard. Pour moi, malheureusement, c'était à 29 ans.
29 ans, c'est tard pour un premier saut. Les plus jeunes sautent à quel âge?
En Suisse, on peut commencer à partir de 15 ans.
Ah oui?
D'ailleurs, le fils de Claude a fait sa formation l'année dernière, pile après son anniversaire. On a une bonne équipe d'ailleurs de petits jeunes à l'aérodrome de B là. On en a qui ont eu 15 ans juste avant Pâques, qui ont fait leur formation à Pâques aussi cette année. Donc c'est assez marrant en fait parfois de les voir s'approcher de l'avion avec des passagers tandem qui sont là « mais, le gamin !» Parce que oui, ils le voient partir tout seul de l'avion et c'est assez cocasse. De voir la réaction de gens, c'est déjà impressionnant pour tout le monde. Et puis de voir des petits jeunes de 15 ans ayant l'opportunité déjà en plus d'avoir obtenu en plus leur licence, de partir comme ça.
Alors 15 ans pour les plus jeunes, la personne la plus âgée que tu aies vue sauter ou qui ait fait son premier saut, les deux peut-être?
Alors, premier saut, en fait, c'était même pas un saut. Alors là, on parle de... Cette année, on a eu un monsieur, Bernard, qui est venu faire son premier saut tout seul, donc pas en tandem, donc encadré de deux instructeurs, après une longue journée de théorie. Et là, cette année, il avait 77 ans, je crois.
Je crois 77 ans. Ouais.
Ouais. 77 ans.
Oh oui, impressionnant.
Donc déjà, quand on l'a eu au téléphone, on était, nous, un petit peu impressionnés. On a voulu le rencontrer, bien sûr, à l'avance. Et puis, non, il a été parfait. À 77 ans, il a décidé de faire son premier saut tout seul, encadré de deux instructeurs. Sinon, en tandem, il n'y a pas de limite d'âge. 90, 100, c'est dans la tête après.
Donc quand tu dis tandem, c'est que là on est accroché à quelqu'un.
Exactement.
C'est ça la différence.
Il y a
donc,
moins
ce
de
monsieur a sauté seul, le monsieur à 77 ans.
Absolument. Encadré de deux instructeurs, c'est clair. Mais quand il a ouvert son parachute, il était tout seul sous le parachute. Il y a beaucoup plus de responsabilités puisque c'est lui qui donne le décompte à la porte de l'avion, qui quitte l'avion encadré de ses deux instructeurs. Mais il doit avoir une belle position, il doit répondre à nos corrections. Il a un programme à respecter et c'est lui qui ouvre son parachute. Et après, il est totalement tout seul. C'est lui qui le guide vers la zone d'atterrissage. Bien sûr, on a un contrôle radio, mais c'est lui qui est venu tout seul vers la zone d'atterrissage et qui a atterri son parachute.
Impressionnant. Et du coup, ce premier saut, pour revenir à ton premier saut à toi, il s'est organisé comment? Des amis qui t'ont dit « viens tester » ou toi qui t'es dit « il faut que j'essaie quelque chose de nouveau ».
Oui, j'ai eu l'occasion, en fait, je vivais à l'étranger à l'époque. Hein, et puis, j'ai des amis qui sont passés me voir. Et je fais, ah, pourquoi pas faire un saut en parachute? Ils ont dit, ah, en tandem? Je fais, non, pourquoi pas y aller tout de suite faire le premier saut? Et puis, ça, c'est parti comme ça.
Donc, ton premier saut n'était pas en tandem.
Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est des moments des choses qu'on n'oublie pas. C'est comme son premier saut tout seul après la formation, sans l'instructeur. C'est des très beaux moments, des beaux souvenirs qui marquent.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Tu as mentionné Claude. Claude qui est aussi autour de cette table. Toi, donc, Claude, qui es-tu ?
Alors, avec Lydie, j'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place cette école. Donc, je m'appelle Claude Corbou, j'ai 49 ans. Je suis dans le parachutisme depuis l'âge de 18 ans. J'ai commencé très tôt avec des années qui avaient plus ou moins beaucoup de sauts. Et puis là, j'ai la fonction dans l'école de chef instructeur. Et puis j'ai aussi, pour la fédération, je suis expert pour la Fédération Suisse de Parachutisme.
Donc toi, c'est au travers de l'armée que tu as découvert...
Vraiment par hasard, un article dans un journal, dans le 24 heures à l'époque, qui cherchait, qui faisait de la publicité pour recruter les éclaireurs parachutistes. Et puis, vraiment comme ça... Sans plus avoir affaire avec le parachutisme, je me suis lancé là-dedans et puis j'en suis jamais ressorti.
Et tu allais dire, lorsque je t'ai coupé, le nombre de sauts que tu as fait ?
Je totalise un peu plus de 6500 sauts.
Tu me disais qu'une année normale, c'est enfin, une année comme ça passe, c'est environ 300 sauts.
Sachant alors, que ça peut moi, aller plus. En ce qui me concerne, c'est une moyenne de 300 sauts avec un pic cette année à plus de 460. Mais oui, 300 sauts de tandem, d'instruction, de plaisir.
Avec un métier à côté, donc en plus, c'est tout ça sur ton temps libre. Donc c'est vraiment que tu consacres beaucoup d'amour là-dedans.
Et puis tout ce que je peux dégager, je suis au parachute.
Du coup, je te propose qu'on commence par toi avec cette grande question. Qu'est-ce que l'aventure pour toi ? Est-ce que ça représente quelque chose ?
L'aventure pour moi, c'est bon, pas évident comme question, mais l'aventure pour moi, c'est de faire quelque chose, pas forcément pas planifié, mais dont on n'a pas tous les, on maîtrise pas tout. Ce petit côté où on part, on va faire quelque chose, et puis il y a cette petite part qui reste en se disant, on verra bien. C'est un peu ça. C'est pas forcément la grande aventure d'aller visiter je ne sais quoi, mais ouais, faire quelque chose, donc pour moi c'est assez large, parce que ça peut être dans plein de domaines, montagne, parachute ou autre, mais c'est de se dire, je vais faire quelque chose où il reste une petite part de découverte, de surprise ou d'imprévu.
Est-ce que tu retrouves ça dans le parachutisme ?
Chaque saut, on retrouve quand même un petit peu d'aventure, parce que même si tout est bien planifié, le matériel est actuellement très performant et sûr, on part quand même avec des parachutes pliés rapidement pour faire beaucoup de sauts dans la journée et autres. Et de toute façon, à chaque fois qu'on tire sur notre poignet, il y a une petite part d'aventure en disant « Est-ce que mon ouverture va être correcte ? Est-ce que ça va bien s'ouvrir ? Ou est-ce que je ne devrais pas faire une procédure de secours ?» L'aventure aussi, c'est avec un passager tandem qui a l'air très nerveux ou un élève qui nous pose quelques petits problèmes de formation. Et chaque saut, il y a une petite aventure. Tout est planifié, tout est briefé, mais qu'est-ce qui va se passer quand même ?
Parce que tu me disais en préparant justement cette discussion qu'il y a quand même une partie de préparation en amont. Enfin, quand on part sauter, on déconne beaucoup en bas. Il y a le côté une super bonne ambiance très décontractée. Et du moment qu'on va sauter, on bascule dans un autre état.
Oui, on doit respecter toutes ces consignes de sécurité. Là, donc, on peut parler presque de coutume dans le parachutisme, des contrôles à tel et tel moment ou autre. On doit respecter ces choses pour rester en sécurité. Et puis, autrement, c'est très décontracté, bien sûr. Mais non, oui, il y a deux mondes dans le parachutisme. Il y a le sol, il y a même trois, parce que dans l'avion, c'est encore différent. Par contre, les gens, quand ils sortent, tout est briefé, tout est préparé. Un saut, les gens ne vont pas sauter de l'avion à 5 sans savoir ce qu'ils vont faire, ça n'aurait pas de sens. Donc, mais par contre, de nouveau, ils vont se trouver face à qu'est-ce qui va se passer, est-ce que tout va comme prévu ou autre. Donc, oui, il y a de l'aventure à chaque saut.
Lydie, l'aventure pour toi avec un grand A ?
Il a tout dit.
Il a tout dit. Il a tout dit.
L'aventure, pour moi, c'est la découverte, se laisser surprendre. De toute façon, je pense qu'il y a de l'aventure, comme Claude le dit, dans chaque aspect de notre vie. C'est pas que dans notre sport, dans une journée toute simple, parce que les choses se passent pas comme prévu. Il faut replanifier. Il faut se laisser surprendre aussi, se laisser guider et surprendre à certains moments pour justement profiter de l'aventure. C'est l'aventure d'une vie. Par exemple, pour moi, ça a été la découverte du parachutisme a remodifié, replanifié ma vie.
De quelle manière ?
Je venais d'une branche assez cadrée, stricte, et le parachutisme m'a presque sauvée. Parce que je ne faisais que de travailler, j'avais que ça en tête, hein. Réussir ma carrière. Hein. Et puis, d'un seul coup, grâce au parachutisme, hein, j'ai commencé à prendre goût à la vie, goût à faire autre chose que d'aller travailler sur les jours de congé, faire des longs horaires. Hein. Et ça m'a vraiment sauvée. Hein. J'ai peut-être aussi devenue beaucoup plus gamine, beaucoup plus jeune, parce qu'on reste comme il y a cette partie aussi très fun. Hein, c'est vrai qu'on reste assez jeune dans sa tête, malgré le côté strict sur la sécurité qu'il peut y avoir dans notre monde. Hein. Donc, ça m'a permis de rebalancer un équilibre dans ma vie que j'avais perdu.
Tu avais déjà un attrait pour le monde extérieur dans le temps libre que tu avais dans cette carrière précédente ?
Je ne faisais absolument que de travailler. Les quelques fois où j'avais pris le temps, c'était j'allais découvrir les parcs nationaux. Enfin, à ce moment-là, j'avais été relocalisée aux États-Unis et je me octroyais d'aller découvrir les parcs nationaux. Donc oui, l'extérieur me plaisait. Oui, absolument.
Il n'y avait pas forcément une prédisposition pour ce type d'activité particulière.
Pas du tout. Quand j'ai commencé, j'ai essayé de mettre ça sur le dos de mon papa qui avait fait les Jeux Olympiques en saut à ski, mais il n'a pas du tout été d'accord de soutenir la déviance que j'avais découverte.
Toi, de ton côté, Claude, est-ce qu'il y avait déjà, quand tu étais plus jeune, parce que tu dis que tu es un peu tombé là-dedans par hasard, mais est-ce qu'il y avait déjà un truc, une attirance pour la montagne parce que j'ai eu l'opportunité une fois de voler dans la région de Bay, et si on n'a jamais vu la montagne, ben, il se passe quelque chose, parce que c'est quand même une région qui est exceptionnelle, quand les montagnes commencent à être un peu enneigées, qu'on a ce paysage-là. Est-ce que tu étais déjà attiré par ce monde extérieur, ou pas du tout de ton côté ?
Moi, j'étais attiré... Alors, je vivais en campagne, j'aimais être dehors. Ça, c'est sûr que j'aimais être dehors, mais le côté parachute, non. C'est vraiment par hasard. Il n'y a rien qui me disait que j'avais envie de sauter dans le vide, que j'avais envie de me trouver sous une voile. Je ne savais pas de quoi on parlait quand j'ai signé, entre guillemets. Mais vraiment, c'était un hasard. Et puis voilà, aussi, ça a orienté mon activité des années jusqu'à maintenant, quoi. Faire que ça, presque ça, parce qu'il y a la montagne et puis...
Parce que tu passes du temps en montagne aussi.
Cette année est difficile parce qu'on a eu beaucoup de travail, on a beaucoup sauté, mais autrement, oui. Avec Lydie qui découvre un peu ça avec moi, mon fils qui en fait aussi beaucoup avec moi, qui va bien. Voilà, moi c'est un peu mes deux centres d'intérêt, c'est le parachutisme et la montagne, mais forcément, le parachutisme prend beaucoup plus de temps, bien sûr.
Et est-ce qu'une fois par année, tu dors ? Tu trouves un moment pour... Parce que là, j'essaie de faire des calculs un peu rapides en me disant montagne, plus de 300 sauts par année.
Là, c'est vrai que les journées sont courtes et les congés sont pas assez nombreux, bien sûr. Hein.
Actifs.
Voilà, mais hyper actifs. Je ne peux pas rester... Une journée de pluie, pour moi, c'est une journée où il faut trouver autre chose à faire parce que je peux pas rester sans rien faire.
Le saut parfait, pour toi, il représente quoi ? Ça se passe comment ?
C'est un saut briefé, comme on l'a prévu, qui se passe bien avec des personnes qu'on apprécie. Pas juste le saut pour faire plaisir des fois à d'autres. On dit oui, je saute avec toi. Mais c'est le saut avec des personnes qu'on a envie de sauter, qui se passe bien. Et puis... idéalement, une belle météo, une belle lumière du soir, ça c'est les sauts top. Et puis un super flair à la fin pour s'arrêter, quoi. Pour se poser.
Un super flair.
C'est une petite figure de pilotage sous voile avec les voiles performantes. Le flair, c'est voler parallèle au sol le plus longtemps possible, entre 1 et 3 mètres du sol. Vraiment emmagasiné de l'énergie durant les derniers virages, qui est restitué le long du sol. Et puis, c'est des flares qui sont 50, 70, 80, 100 mètres quand on est super bon. Et ça, c'est top.
Donc, quelque part, toute la chute te prépare à ce moment-là.
Non, c'est vraiment distinct. Il y a la chute, okay. La chute avec les copains, la séparation, où là, on va chacun dans son coin ouvrir son parachute.
Donc avec les copains, c'est-à-dire que vous allez faire une figure, par exemple,
voilà,
pendant que vous tombez.
Peut-être, on est deux, trois, quatre. Et puis, bien sûr, aux environs de 1500 mètres du sol, on va se séparer. Le but, c'est que chacun ait son petit espace pour ouvrir son parachute. Et c'est depuis là où on est seul sous sa voile, où là, Moi, j'ai vraiment deux phases dans mon saut, quoi. Il y en a, leur parachute, c'est juste pour les amener au sol après de la chute libre. Mais moi, c'est encore une partie qui est très importante pour moi. Le pilotage sous voile, j'adore.
Lydie, de ton côté, le saut parfait?
C'est le saut qui est déjà, comme Claude dit, fait à l'avance, qui se déroule avec une belle sortie, tout de suite des bonnes sensations avec les personnes effectivement qu'on apprécie, ou sinon juste un élève qui d'un seul coup avait des soucis, et puis on fait le saut où tout se passe bien et l'élève est en plein épanouissement et découvre les sensations qui lui manquaient. Et d'un seul coup, on voit ce grand sourire faire « Ah, ça y est, j'ai compris, et je vole tout seul !» Parce que on aura quitté l'avion, l'élève, on le lâche, et il vole tout seul, il s'en rend compte, il réalise qu'il est capable de faire ça tout seul. Moi, c'est des beaux sauts, ça, effectivement. Avec, à nouveau, des belles météos, beaux paysages. Comme on dit, à l'aérodrome de B, c'est un peu compliqué de ne pas avoir un paysage exceptionnel. On a la personne en chute en face de nous, le Mont Blanc, les Dents du Midi, Dents de Morcle. C'est juste on peut simplement chuter et faire « Qu'est-ce que c'est beau !» Ah oui, j'ai un élève. On reste concentré sur l'élève. Mais oui, ça arrive.
C'est drôle parce que j'ai posé cette question en pensant qu'on allait partir plus sur l'aspect de ce que vous ressentez personnellement, et vous avez beaucoup mentionné les autres, le partage avec d'autres gens. Et on pourrait imaginer, moi je ne saute pas, que c'est un moment quelque part aussi assez solitaire parce qu'on est en quelque sorte, moi je l'imagine comme ça, on est seul en train de tomber. Et là vous parlez du partage beaucoup.
Mais c'est vrai qu'on sauter seul, c'est bien. Peut-être qu'il y a une super lumière, un coucher de soleil. On dit non, moi je veux sauter seul, je veux profiter. Mais on en profite aussi et de le partager. C'est vrai que les sauts, on aime sauter seul, mais rapidement, on s'en lasse parce qu'on a envie, on recherche un peu la compagnie en chute, mais pour faire des figures, pour profiter, pour partager avec des jeunes. On a la chance dans le parachutisme, c'est que tu peux avoir un champion du monde sur la place qui vient sauter parce qu'il est de passage et puis il va te proposer de sauter avec. On fait rarement une partie de tennis avec Roger Federer, mais chez nous, c'est courant d'avoir des niveaux complètement disparates et puis d'en profiter. Et puis de sauter à plusieurs, c'est vraiment super. Hein. Et puis, seul, on est seul. Dans cette discipline, c'est une des disciplines où on pense à rien d'autre. Je pourrais dire, franchement, une fois qu'on quitte l'avion, on est dans notre truc. On ne va pas penser à sa voiture, ses impôts, à qu'est-ce qu'on va faire après au sol. C'est vraiment c'est cette minute de chute libre et ces deux, trois sous-voiles où personnellement, je crois pas avoir pensé à autre chose que ce que je faisais. Parce que c'est prenant, il faut être dedans et puis c'est prenant.
Il faut être concentré. Et puis c'est en plus un sport où peu importe d'où on vient, tout le monde est mélangé et remis à niveau. On peut avoir des gens qui sont champions du monde dans leur discipline, dans d'autres choses, différentes revenus, le petit étudiant qui compte chaque sou, qui vient même donner un coup de main à faire la plate-bande pour gagner des tickets de saut. Hein. Et puis à côté ça, des champions du monde dans d'autres disciplines. Et tout le monde dans l'avion va être à même niveau. Tout le monde va prendre soin l'un de l'autre. C'est quand même un bel échange. On ne va pas sauter... Par exemple, si je fais un saut avec Claude, ça ne m'empêchera pas de regarder et prendre soin dans l'avion des autres personnes. De garder un œil. Est-ce que sa sangle de poitrine est bien attachée? Est-ce que si? Est-ce qu'il a fait ses checks? Est-ce que... Voilà, on est là pour prendre soin les uns des autres.
Est-ce que c'est une des choses qui vous a poussé, du coup, à ouvrir cette école?
Moi, c'est... J'étais déjà instructeur dans d'autres écoles avant. Mais assez rapidement, ça, j'ai voulu être instructeur dans le milieu parce que m'impliquer déjà pour le club, c'était là on est une école, On travaille dans un esprit de club, mais moins qu'avant. Avant, c'était vraiment l'instructeur. C'était parce qu'il avait de l'expérience et puis il passait instructeur, il travaillait dans le club. Moi, j'ai très vite voulu être instructeur. Et puis après, j'en suis jamais sorti. J'ai toujours continué, chef d'école, etc. Et puis, gravir les échelons gentiment, mais à rien vouloir gagner avec ça. C'est juste le plaisir de partager et d'instruire. Dans ce milieu, c'est gratifiant. Comme elle disait tout à l'heure, un élève que ça va pas et tout d'un coup, on l'amène au bout, ça fait plaisir, ouais. C'est vraiment bien. De voir les gens progresser, leur transmettre, c'est une activité où on transmet sans compter. Il faut tout donner, ce qu'on a, pour mettre les gens en sécurité ou autre. Et puis ça, c'est vraiment... Ouais. Toujours voulu.
Ouais, puis c'est un moment aussi, suivant comment, où on leur a donné des outils à nos élèves. Puis d'un seul coup, à leur huitième saut, ils vont partir tout seuls. Et c'est ça aussi être instructeur, c'est pouvoir permettre à des gens de déployer leurs ailes tout seuls, leur faire confiance. Et d'un seul coup, parfois, ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Et ce huitième saut où ils partent tout seuls, ils atterrissent et ils ont gagné cette confiance en eux. Enfin, voilà, petit à petit, ça va continuer à... Parce que ça ne s'arrête jamais, le monde du parachutisme. Des gens à 25 000 sauts, ils ont toujours quelque chose à apprendre. C'est un sport, c'est nos limites, hein. C'est exponentiel encore comme apprentissage. On a énormément de chance, en plus, à travers les différentes disciplines. Mais c'est ça, c'est ce partage. Comme Claude disait, parfois on commence petit à petit dans le monde du parachutisme. Quand on commence à travailler dedans, on est un peu plus caméraman, hein, donc par exemple pour des tandems ou autres. Et ça aussi, c'est un échange. C'est pas simplement faire la vidéo de quelqu'un. C'est un moment où on a la chance que ces gens-là nous fassent confiance, hein, qu'on va partager un moment fort en émotion avec ces gens-là. C'est exceptionnel. On a une chance, on travaille dans un milieu où les gens sont là pour se faire plaisir en plus. On a énormément de chance d'avoir l'occasion de partager ces moments forts en émotion avec eux. Et ça, c'est... Ouais, c'est beau, quoi.
On est des marchands de bonheur. Alors, je dirais, tout le monde peut s'essayer au parachutisme. Ça, on a vu, moyennant des gros soucis de santé ou autre, mais tout le monde peut s'essayer au parachutisme. Même des tandems, il y en a qui arrivent au sol, qui nous disent, c'était super, j'ai une grosse expérience, j'ai vraiment aimé, mais je ne referai pas. Il y en a de temps en temps qui nous le disent. La plupart, ils nous disent, je veux remonter tout de suite. Et puis après, il y a des élèves... Ou franchement, manque de coordination, ils ont le stress, et puis vraiment, on a de la peine à les sortir. On les envoie faire un peu de souffleriation là, pour les essayer de trouver la position. Malgré ça, ça ne marche pas. Ça ne nous arrive pas souvent, mais ça nous a eu arrivé de dire à une personne, écoute, je crois que là, il y a trop de stress, tu ne gères pas, tu te mets en danger. Donc, essayer de dire aux gens, ben, pense à faire autre chose. Ce n'est pas souvent, mais ça nous a eu arrivé.
C'est bien rare, mais une fois, voilà, une fois tous les 5 ans ou autre, il y a une personne. Et bon, sinon, c'est clair que plus les gens avancent aussi en âge, bon, nous, on va changer de décennie l'année prochaine, mais on est toujours très jeunes. Non, mais par contre, des gens qui veulent commencer à apprendre le parachutisme, qui s'approchent plutôt 60 ans et plus... Oui, est-ce qu'il y aura besoin de plus d'attention, peut-être d'un budget supplémentaire pour pallier à... les choses vont quand même assez vite dans notre monde. Hein. On a une minute pour épater l'instructeur pendant la chute libre et ouvrir son parachute. Après, ça se calme, tout est super calme sous voile. Mais cette minute-là, il faut être quand même assez bien coordonné, ça passe vite, c'est la lecture de l'altimètre. Donc, c'est des choses qui, parfois, sont un peu plus compliquées aussi avec la souplesse. Hein. De la personne. Donc ça peut arriver qu'effectivement, là, il faut prévoir un petit budget supplémentaire.
tu as mentionné le temps. Est-ce que ta notion du temps a changé depuis que tu t'es mise au parachute? Parce que tu me disais qu'un saut, si je ne me trompe pas, c'est une minute de chute. Ensuite, on a 4 à 5 minutes, tu disais, sous voile, c'est ça? C'est quand, quand le parachute s'est ouvert. Donc, en gros, c'est quand même une journée peut-être qu'on va réserver pour 7 minutes d'activité. Est-ce que tu as un rapport au temps qui est différent, du coup?
Non, j'ai presque j'ai une horloge interne pour 7 minutes qui se crée au bout d'un moment, mais il ne faut pas se baser non plus dessus. Hein. Non, le temps, pour moi, c'est... premier rayon de soleil, coucher du soleil, un peu mes journées quand c'est dédié au parachutisme, c'est ça, c'est toute la journée hein, et c'est aussi souvent que possible dans un avion. Hein. C'est addictif. Hein.
Parce qu'il faut savoir qu'un élève qui fait 4 sauts dans sa première journée de saut, qui fait ses 4 premiers niveaux, ils sont lessivés, ils sont fatigués en principe. Le stress, monter, descendre. Replier son parachute, il fait chaud, les briefings.
Puis c'est très intense, je pense, au moment où on vit l'expérience.
Et on les voit au fur et à mesure dans la journée où on leur dit de s'équiper et autres, où on voit qu'ils fatiguent. Tout le monde est différent. Hein. Il y en a, on va pouvoir leur faire leurs 7 sauts un jour, ça pourrait passer. Mais la plupart, après 4 sauts, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer pour se reposer pour le lendemain. Mais après, voilà, nous, je veux dire, si on doit faire 10, 12 sauts dans la journée, on va faire 12 sauts, ce n'est pas un problème. Mais et puis pour revenir à cette notion du temps, en chute libre, au début, les gens, ils ne l'ont pas. Clairement, on leur dit, on a fait une minute, ils ne nous croient pas. Souvent, ils nous disent, oh, ça a duré 10 secondes. Parce que la notion du temps s'échappe. On perd quand même quelques neurones là-haut quand on est débutant. Et puis après, non, c'est un chronomètre qui s'installe. Moi, c'est rare qu'on regarde nos altimètres avant 1700, 1800 mètres du sol. Et pendant la première partie de la chute, on sait où on est, quoi.
Le parachute s'ouvrant à...
Pour un élève à 1500, pour nous à 1000 mètres du sol. 1000 mètres sol.
Donc tu arrives vraiment à être complètement dans ce moment et puis à lâcher tout le reste. Bon, vous l'avez les deux un petit peu mentionné hein, sur ce fait que les problèmes sont dehors pendant qu'on fait ça. Mais donc il y a vraiment ce moment où on est ultra présent ou c'est un moment différent? Est-ce que c'est de la présence qu'on ressent sur le moment ou c'est autre chose?
Je pense qu'au début, les gens sont un petit peu dans leur monde. Ils ont un peu les œillères. En tout cas, les débutants s'en rencontrent. Ils ne voient pas trop le Mont Blanc et autres. Ils sont captivés par l'instructeur de droite, suite gauche, mon altimètre. Mais nous, après, avec l'habitude, on est complètement dans notre saut. Autour d'un élève, par exemple, on a un travail à faire. On doit assumer sa sécurité ou autre. Et puis, on le fait très bien. Les sauteurs, après, quand on saute à plusieurs, ils sont dans leur truc. Ils ne vont pas trop s'occuper du Mont Blanc sur un saut. Par contre, ils seront là, entre eux. Tiens, lui, il est là, je dois prendre sa main, je dois prendre son pied, etc. C'est une chorégraphie. C'est quelque chose, on se met dedans et puis on s'y tient. Ouais.
Ouais, puis ça dépend vraiment du type de saut. Parce que ben, des sauts d'instruction, c'est clair qu'on est ultra concentré sur l'élève, sa position, toutes les informations qu'on peut lui communiquer en chute pour qu'il soit plus à l'aise et qu'il s'améliore. Et puis sinon, mais c'est un peu comme nous, là, on sort des championnats suisses en intérieur. Quand on s'entraîne, on voit assez facilement les gens qui sont autour, qui tournent autour de ces baies vitrées. Par contre, là, pendant les championnats, on n'avait aucune idée de qui était derrière. À partir du moment où le chrono commençait, c'était fini pendant 35 secondes. On n'avait aucune idée de qui était autour. On était concentrés l'un sur l'autre.
Lydie, c'est quoi une journée sans saut pour toi?
Alors, généralement, c'est une journée d'email.
C'est donc l'administratif qui prend le dessus.
C'est l'administratif, non. Et puis moi aussi, j'ai la formation pour plier les parachutes de réserve. Puisque quand on saute d'un avion, on a deux parachutes. On a le parachute principal qui se plie très rapidement et qui est plié généralement par le parachutiste. Et le parachute de réserve qui, là, par contre, prend plusieurs heures. C'est une inspection complète du harnais.
Et là, un parachute de réserve, c'est plusieurs heures.
Oui, absolument. Ouais. Et là, dans ces cas-là, ça, c'est aussi, ça fait partie de mon travail. Donc, par exemple, pour les harnais même de l'école ou autre, si un élève ou quelqu'un qui loue un équipement de l'école doit faire réserve, il doit avoir confiance en une blonde.
Je pense que ça va.
C'est toujours bien passé jusque-là, dans tous les cas.
Moi, bon, elle m'a sauvé la vie 6 fois. Ça marche bien, ces pliages. Hein
Je les ai même testés, mes propres pliages, moi-même. C'est bizarre, au départ, de tester ses propres pliages hein, de réserve.
De tester son propre parachute de réserve. Ouais.
Mais ça se passe bien.
Et pour toi, Claude, une journée sans saut, c'est quoi?
Bah, c'est espérer qu'il fasse beau pour faire autre chose, mais... Non, si j'avais pas prévu de sauter, ce qui est rare, voilà, je saute pas, je fais autre chose. Par contre, c'est vrai qu'une journée où on a prévu de sauter et puis on peut pas le faire, je suis malheureux parce que je dois avouer que même si on bosse beaucoup pendant l'année, on fait beaucoup de sauts, j'ai toujours envie d'y retourner. Ouais.
Claude, est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi?
Ah, je vais laisser le parachute à Lydie. Moi, je vais...
Vous avez le droit d'avoir le même. Hein.
Je pense aussi à autre chose. C'est, ben, comme j'adore la montagne, tout ce qui est cascade de glace, toutes ces choses-là, le baudrier. Le baudrier, pour moi, c'est partir en montagne. Et puis, c'est ce petit côté aventure où on va, entre guillemets, s'exposer à un certain danger, en maîtrisant un maximum tout ça. Mais ouais, le baudrier. Baudrier, c'est aller sur un glacier, c'est aller faire une belle falaise, c'est aller faire une belle cascade de glace. Et ouais, j'aime vraiment. Baudrier, pourquoi pas. Ça m'amène à des aventures.
Ouais. Et pour toi, Lydie?
Moi, ça serait plutôt mon parachute avec mon appareil photo. Voilà, parce que j'aime beaucoup faire de la photo en chute libre. Hein. Donc ça, c'est un petit peu mon dada quand je fais pas d'instruction. Enfin, pas en instruction, mais autrement, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Donc tu trouves le temps de faire des photos en chute libre. Très bien. J'aurais tout entendu aujourd'hui, c'est parfait. Merci beaucoup Lydie, merci beaucoup Claude pour votre temps.
Merci avec plaisir.
Merci d'avoir écouté l'aventure. Si vous voulez en savoir plus sur Lydie et Claude, vous pouvez suivre leur travail sur le site flying-devil.ch. Vous pouvez retrouver tous les épisodes déjà sortis sur les principales plateformes de podcast. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre ici. Si vous aimez ces rencontres, eh bien couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud au cœur. Si au contraire, vous n'êtes pas fan, partagez un maximum avec les personnes que vous n'aimez pas. Comme ça, elles passeront vraiment un sale moment. Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut !